Bonjour à tous. Particulièrement ému de partager ces trois textes merveilleux avec vous. Ça va être dur de faire une prédication assez courte sur trois textes si merveilleux. Et surtout que c'est la dernière fois que vous allez m'entendre prêcher. Parce que dans les rencontres, on aime toujours quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pour l'année 2016, je vous rassure. Parce que dans toutes les rencontres qu'on veut tous avoir, on veut tous avoir quelque chose d'exceptionnel. Un côté un peu sanguin des fois. Très impressionné par l'actualité où, la dernière fois, j'étais à l'aéroport et on veut des rencontres. Donc j'étais à côté d'un homme politique et trois ou quatre personnes sont venues faire un selfie. On cherche une rencontre, uniquement pour envoyer aux autres. J'ai rencontré. Est-ce que c'est ça les rencontres? Est-ce que vous voulez vivre ces rencontres? Moi, je ne crois pas. Bon. Ce matin, on va essayer de travailler ensemble sur un livre merveilleux. Et je vais essayer, à travers ces trois textes, de vous dire tout ce que Dieu fait pour nous et tout ce livre de cette Bible, les rencontres qu'il nous propose. Et je pense qu'à travers les trois textes, on pourra s'identifier successivement, sûrement à ce jeune homme riche, sûrement à Zachée, et sûrement sur ce chemin. Alors, Daniel en a parlé un peu avec Nicole, ce moment de partage, je ne suis pas un pasteur, mais c'est surtout une rencontre qu'on va faire ensemble. Et c'est une rencontre qui est aussi celle d'un groupe qui l'a préparé. Alors merci à eux, merci aussi de ces moments de partage et ces moments de prière. La Bible est vraiment un livre fabuleux et dès l'Ancien Testament, les rencontres ont lieu. Dieu aime les rencontres. Il va créer l'homme à son image, c'est-à-dire à l'image de Dieu. Dès la Genèse, Dieu vient à la rencontre de sa création. Et comme on a un peu parlé Daniel, dans le livre de l'Exode, il fait mention de la tente de la rencontre, ou tente d'assignation, dans les anciennes traductions de la Bible. Cette tente, c'était un lieu provisoire où l'Éternel rencontrait son peuple en la personne de Moïse. L'Ancien Testament aussi va nous parler de rencontres merveilleuses. Je vais en retenir deux pour vous. Celle que je pourrais appeler une rencontre qui tombe à pic, celle de Moïse et Aaron, quand l'Éternel, dans Exode 4, 27, va dire « Va dans le désert au devant de Moïse. » Aaron partit, il rencontra Moïse. Il l'envoyait dans un désert et il l'a rencontré. Et une rencontre qui réchauffe, celle du buisson ardent. Moïse. Et je permet de passer rapidement, mais vous le lirez, dans celle du Nouveau Testament. Et je vous propose ce matin, après ce bref passage dans l'Ancien Testament, de reprendre les trois textes, en me permettant de les décliner en rencontres. Le jeune homme riche, une rencontre dure. Un homme nommé Zachée, une rencontre surprise, et sur le chemin d'Emmaüs, une rencontre qui dure. Puis je permettrai de partager avec vous quelques conclusions sur notre vie, cette notion de rencontre. Pourquoi est-ce que Jésus va donner ce commandement impossible au jeune homme riche ? Parce que oui, partageons-le tous ensemble, c'est impossible de tout donner. Il ne faudrait pas exister, car manger une seule bouchée de pain, c'est déjà posséder quelque chose. C'est donc impossible de tout donner, et cela, vous le savez tous comme moi, on ne peut pas fonder un modèle de société si on doit tout donner. D'ailleurs, si je suis un peu perfide, Jésus ne s'appliquait pas à lui-même, il avait même une belle tunique, vous en souvenez. Même les soldats romains se sont partagés avec intérêt lors de son exécution. Et je vous interpelle à vous, si vous aviez été à la place de Jésus, dans la même question, qu'est-ce que vous auriez répondu? Alors, moi qui suis trésorier, j'aurais répondu, puisque vous êtes saint, moi j'aurais dit, ben écoute, avec ce que tu gagnes, tu pourrais donner peut-être un petit pourcentage en tenant compte peut-être de ton niveau des impôts, mais attention, il faut bien tenir compte du décompte fiscal. Mais non, Jésus ne dira jamais ça, il le dit nulle part. La générosité, oui, va dans le sens de ce que propose Jésus, mais ce qui est contraire à Jésus, c'est d'enfermer cette générosité dans un cadre. Ce qu'il nous propose, ce n'est pas de partager avec les autres, ce n'est pas de donner la dîme, mais c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ces commandements impossibles de Jésus sont à la fois pour moi source de libération et d'inspiration. Alors que le moindre conseil aurait fait perdre toute sa valeur. Et si vous poursuivez la lecture, mais Jésus vous demande quoi à vous tous? Ben, l'idéal, ça serait de donner 100% de tout ce qu'on a, de prier 100% du temps, de rendre service 100% pour tout le monde. Et c'est impossible à faire. Jésus nous pose de bonnes questions à nous poser à nous-mêmes, tout en nous laissant libres de voir ce que l'on peut faire de mieux. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du pasteur Trocmé à Chambon-sur-Lignon, il s'est posé des questions. Et je vous invite à lire son témoignage sur les armes de l'esprit au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qui a permis de rencontrer 5000 personnes et de les éviter d'une mort certaine. Oui, il s'est posé les bonnes questions. La première chose que l'on peut dire, c'est qu'avec ces paroles choc de tout donner, Jésus nous considère comme des personnes responsables. Toute notre vie, on va chercher auprès de lui des indications sur ce que l'on doit vivre, comme le fait ce jeune homme riche, comme nous le faisons tous les matins. Mais je suis désolé, Jésus ne réfléchira pas à votre place. Il ne décidera pas non plus à votre place. Il nous sera donné des questions à nous poser. Oui, il est bon de donner. Mais ce qui est pour de savoir combien, comment, à qui, à quel moment, c'est à vous de décider. Ce jour-là, à ce jeune homme-là, Jésus dit de tout donner aux pauvres. Et si on reprend une prédication qui a eu lieu sur le Kairos à ce moment-là, c'est bien à ce moment-là que c'est demandé. Et si vous parcourez la Bible, c'est la seule fois qu'il va le demander. Il ne l'a pas demandé à Zachée, comme on l'a vu par la suite, qui était riche. Il ne l'a pas demandé à l'apôtre Pierre, qui avait une entreprise de pêche. Il ne l'a pas demandé au centurion romain, qui est venu lui demander un coup de main. Et même quand Marie-Madeleine répand une fortune en parfum sur ses pieds, Jésus va même la montrer en exemple, au lieu de dire qu'il aurait mieux fait de donner cet argent pour nourrir des affamés. À chacune de ces rencontres que Jésus a eues, il a dit autre chose. Il leur a dit ce dont chacun avait besoin à ce moment-là, pour progresser, pour grandir, pour aller mieux, pour aimer encore un peu plus. C'est pourquoi la relation personnelle avec Dieu est importante. C'est pourquoi il est utile et indispensable de se laisser interroger par la Bible, en particulier par ces paroles choc de Jésus. Cela nous aide à nous ouvrir à la nouveauté de ce que Dieu nous propose aujourd'hui. Car à chacun de vous, il a quelque chose à proposer. Cette parole qu'il a pour nous, c'est bien souvent comme cette parole qu'a Jésus ici pour ce jeune homme riche. une piste de réflexion plutôt qu'un ordre. C'est comme un nouveau champ de vision. Alors pour ceux qui font la photo, vous savez, c'est comme quand vous voulez prendre une photo, vous réglez l'objectif pour qu'à un moment ça apparaisse clair, c'est flou. Laissez-vous guider, laissez-vous régler votre objectif. Jésus ne cherche pas à nous mettre dans des rails d'une morale. Mais à travers la rencontre, il va chercher à aider à nous construire comme quelqu'un de bon. Et quand Jésus va lui dire de tout donner, tout pour ce qu'il y a pour les pauvres, je vais être dur, mais tant mieux si ça va aider les pauvres, mais ce n'est pas l'objectif. C'est d'abord la rencontre qui va prendre du temps pour Jésus. C'est ce jeune homme riche qui va lui prendre du temps et à qui il va s'intéresser. Parce que pour cette journée-là, à ce moment-là, le plus misérable pour Jésus, c'est bien ce jeune homme, prisonnier de son argent. C'est sur lui que Jésus pleure. C'est de cette maladie qu'il veut le guérir. Pourquoi le guérir? Pour qu'il puisse avancer librement et devenir d'une certaine façon source de vie. La prise de conscience, il s'en alla tout triste. Quand Jésus va lui dire « Donne tout ce que tu as et donne-le aux pauvres », il pose de façon provocante cette question. Est-ce que c'est toi qui possèdes ton argent? Ou est-ce que par hasard, ce n'est pas l'argent qui te possède? Et ce matin, je voudrais vous poser à vous cette question. Est-ce que c'est la télé que vous possédez? Ou est-ce que c'est la télé qui vous possède? Est-ce que c'est votre travail que vous possédez? Ou est-ce que c'est le travail qui vous possède? Est-ce que c'était votre agenda? Ou comme moi, est-ce que c'est cet iPhone qui vous possède? Ou est-ce que c'est vous qui le possédez? Mais comme je suis quelqu'un de toujours optimiste, je vous ai mis un petit « mais ». Parce que la Bible a ce côté fabuleux, et vous aimeriez bien tous le savoir, mais qu'est-ce qu'il est devenu ce jeune homme? C'est triste, hein, on dit « il s'en alla tout triste ». Il y a deux choses que je voudrais que vous reteniez. D'abord, que c'est lui qui s'en va, que Jésus demeure. La présence de Jésus est là. Et c'est lui qui s'en va. Et même si on extrapole, moi je me dis, mais est-ce qu'il est revenu après pour revoir Jésus, pour en discuter? Peut-être. Est-ce que Jésus s'est débrouillé pour que lui ou quelqu'un d'autre le recroise le chemin? Et comme souvent dans l'Évangile, nous ne connaissons pas la fin de l'histoire, comme si elle était écrite pour moi ou pour vous. Avec notre propre vie. Et je me pose souvent la question, et nous, est-ce que aussi, comme le jeune homme riche, nous fixons des limites à certaines choses? Parce que finalement, on aime bien dans la Bible quand il a écrit qu'il était très riche. Nous, on n'est pas très riche, juste en dessous, vous savez, comme les impôts, on essaie toujours d'avoir le seuil en dessous. Notre vie, on essaie toujours d'avoir un seuil en dessous. Alors on aime bien lire, c'est très riche dans la Bible, comme ça on se dit, ben, c'est pas nous. Je pense que nous jouons tout le temps avec nos limites. Et je partage avec vous un fait d'actualité qui m'a marqué. ⁇ 47% des Français passent à côté de leur vie. La même proportion cherche constamment à gagner de l'argent. Du temps. La même proportion sont souvent stressés. J'ai trop de choses à faire. J'ai envie de tout quitter. C'est-à-dire que pour vous, chacun, donc c'est un... Alors les sondages, bien sûr, on aime les sondages parce que ça a l'impression de faire corps, mais vous êtes tous uniques. Ça donne un reflet. Mais chacun, ce matin, vous pouvez vous dire qu'autour de vous, vous avez une ou deux personnes qui aurait répondu ça de sa vie. Passer à côté de sa vie. Alors, on peut en être triste, mais se dire aussi que c'est notre travail, peut-être, à chacun de nous, de rencontrer ces gens. Parce que s'ils passent à côté de leur vie, nous, on sait peut-être tous ce qu'il faut faire pour ne pas y passer à côté. Une rencontre. On passe à Zachée, un autre style de rencontre. Zachée, on se projette à Jéricho et Jésus est en route pour Jérusalem, il est entouré de ses disciples. Et dans ce cheminement de l'évangile ensemble, le personnage important, c'est Zachée. Alors la description est très forte, hein. Il est petit, il est chef des collecteurs d'impôts et il est riche. Ça ne fait pas beaucoup d'arguments pour être sympathique, ça. Mais cet homme, il tient à voir Jésus. Il a entendu parler, il tient à le voir. C'est qui cet homme qui guérit les malades? C'est qui cet homme qui ose affronter les chefs religieux? Il ne trouve pas d'autre solution que de grimper sur un arbre. Il veut cette rencontre. Alors c'est un sycomore. De cet arbre, il pourra voir Jésus sans se faire repérer. C'est vrai que si vous montez là-dedans, pour vous voir, il faut le faire. Il veut rester anonyme, mais il veut cette rencontre. Pourquoi? Il est peut-être rejeté par sa profession. Petit, il ne voulait peut-être pas pousser les autres. Je ne sais pas. Et vous savez quoi? Vous connaissez l'histoire. Mais dans cet arbre-là, c'est Jésus qui va le voir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'appeler par son nom. Zachée, un être unique. Alors je vais vous le dire ce matin, vous êtes tous uniques. Et même plus, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes tous des œuvres d'art. Mais il y a un problème, c'est parce que quand on est une œuvre d'art, on est unique, on est beau, et je peux vous le dire d'ici, vous êtes tous beaux, mais on se montre, une œuvre d'art, c'est fait pour être partagé. Et vous avez tous des talents. Des dons de la vie. Et si je reviens sur mon premier sondage, je crois que si la première souffrance de ne pas être à sa place, je suis persuadé que la seconde souffrance de tous ces 47% ou la moitié des gens, c'est de ne pas faire don de ses dons. La vraie générosité est de donner ce qui nous a été donné. C'est le sens de notre vie. Jésus le voit dans cet arbre, lui demande de descendre, et Zachée ne va surtout pas protester. Alors j'ai beau relire le texte, je me suis dit, ça m'étonnait, parce qu'il veut se cacher, et quand Jésus va l'interpeller, j'imagine que tous les gens qui étaient autour de lui sont retournés pour le voir, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, il n'est pas figé. Il aurait pu faire « Non, non, je voulais simplement regarder. J'étais, non, je ne suis pas digne, j'étais juste venu. » Non, la rencontre a eu lieu. C'est quoi la rencontre, finalement? Ce n'est pas qu'un regard, c'est un échange. Quand je vais à Paris et que je prends le RER A, j'arrive à la Défense, on est 800 000 à débarquer, je ne rencontre personne. Il n'y a que des regards. Pas de regard, il n'y a pas d'échange. Ce n'est pas ça une rencontre. Je n'ai pas rencontré 800 000 personnes. Jésus entre dans la maison de Zachée et la rencontre va vraiment avoir lieu. Un croisement de regards, un échange de paroles. Oui, pour une rencontre, il ne suffit pas de se croiser. Les versets qu'on a pu lire vous montrent clairement que la rencontre vient d'opérer un changement radical sur Zachée. Avec cette phrase magnifique, oui, le salut est rentré dans cette maison. Fidèle à sa mission de toute la Bible, Jésus est venu chercher à sauver ce qui était perdu. Et si je reviens sur mon jeune homme riche, vous remarquerez une chose pour nous rassurer. Jésus ne demande pas à Zachée de changer de métier, de vendre tout ce qu'il a, de tout renoncer, de repartir. À ce moment-là. Avec Zachée, c'est embêtant parce que tout paraît simple. Il n'abandonne rien. Ni sa maison, ni ses biens, ni son métier. Mais quand Jésus va quitter sa demeure, Dieu n'a peut-être pas dit son dernier mot à cet homme. Zachée va vivre toute sa vie maintenant avec la grâce qu'il a reçue. Je vous ai dit, vous étiez tous uniques. Alors, avec les enfants, j'ai toujours une image qui m'a été inculquée étant enfant, alors je vais vous la donner aussi. On disait tous qu'on est tous comme des bateaux. Tous, vous êtes tous des bateaux, alors faites comme si vous étiez des enfants et dites oui. Merci. On a tous une voile. Alors, l'important, ce n'est pas la dimension de la voile. Ce n'est pas la grandeur de la voile. L'essentiel, c'est de la monter dans le bon sens. On a tous des tailles de voile différentes, mais l'essentiel, c'est de la monter dans le bon sens, d'être dans le souffle de Dieu. Mais même si nous, on aime bien aller dans les ports, voir les bateaux qui attendent, ils ne sont pas faits pour ça. Ils ne sont pas construits pour rester dans un port, les bateaux. Ils sont faits pour partir, pour affronter des choses incroyables. Mais un bateau n'est pas fait pour rester dans un port, avec sa voile pliée. Ce qui m'a marqué sur les bateaux actuellement, c'est qu'il y a une course qui s'appelle la Vendée Globe, et on dit que c'est la dernière aventure humaine. Alors, si vous voulez y participer, c'est tous les 4 ans. Il faut partir... Je crois que c'est 3 mois, tout seul. Est-ce que la dernière aventure humaine de rencontre, c'est de rester seul, tout seul? Moi, je ne crois pas. Et je vous invite à cheminer avec moi sur le chemin d'Emmaüs, parce que je crois que là, ce n'est pas une dernière aventure humaine. Vous voyez, je suis resté enfantin. Hein. Quelle belle rencontre sur le chemin d'Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Jésus va marcher avec eux. Ils ont l'air tristes. Les disputes s'empressent de discuter de ce qui s'est passé, mais ils sont dépassés par les événements. Un inconnu passe par là. Et Luc est gentil parce qu'il nous prévient. C'est Jésus. Mais à leurs yeux, c'est un inconnu. Vous savez, un inconnu, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas à quoi il sert. Mais vous le savez d'où il vient. Il vient de la mort. Il revient de l'inconnu. C'est comme si aujourd'hui, en marchant, on nous parlerait d'Alep. On disait, mais qu'est-ce qui se passe à Alep? T'es pas au courant? Et que font les disciples? Ils racontent l'histoire de Jésus. Une attente déçue. Mais c'est peut-être votre histoire, vous, ce matin. Une attente déçue. L'histoire de la résurrection, magnifique, mais finalement c'est des femmes qui l'ont raconté. Une histoire de femmes. Personne ne l'a vue. Ils n'y arrivent pas à y croire durant le chemin. Et cette histoire, on vous la raconte tous les dimanches, et vous y croyez? Mais eux, ils ne l'ont pas vue. Et pourtant, elle est juste à côté d'eux. Mais ils n'arrivent pas à le voir. Mais qu'est-ce qui les empêche de le voir? C'est quoi cette chose qui les empêche de le voir? C'est quoi cette chose sombre qui est sur les visages? C'est la nuit dans leur cœur. Luc va nous donner un nom, Cléopas. Et si c'était vous le deuxième disciple à côté d'eux? Avec Cléopas, finalement, nous traînons un air triste, un air de déterré. Nous n'arrivons pas à le vouloir, nous ne voulons pas le rencontrer. Les disciples pensaient tout savoir. Peut-être que nous aussi, on pense tout savoir. Mais ils n'avaient rien compris. Nous avons la Bible depuis. Et dimanche après dimanche, dans toutes les églises, on lit les textes. Alors, je ne sais pas si ça arrive, mais parfois, il y a des textes qui enflamment notre cœur, qui nous portent pendant toute la semaine. On a pris du temps à l'écouter, on le relit. Et là, on se dit, oh, il doit être là à côté de nous, Jésus. Et on a envie de l'écouter un peu plus. Mais ce n'est pas tous les dimanches que vous avez ça. Dans cette marche, le soir arrive, fin du voyage. Ils sont arrivés à destination, les forces s'amenuisent. Pourtant, si je fais un parallèle avec le premier, Jésus, lui, veut aller plus loin, comme s'il y avait un autre chemin. Dans le jeune homme riche, je vous dis, restez. Là, il veut aller plus loin. Mais les disciples sont à bout de force. Ils retiennent Jésus, ils le prient même de rester. L'inconnu accepte de faire une pause. Il s'arrête pour partager le pain avec ses compagnons. Et vous le savez, il l'avait fait déjà quelques jours auparavant, en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». Il leur faudra de nouveaux gestes de Jésus pour qu'ils reconnaissent Jésus, que la mémoire revienne. Enfin, l'air sombre a disparu. Cet inconnu, c'est le ressuscité, cette rencontre était magnifique, était merveilleuse. Mais Jésus ne faisait qu'une pause, la route continuait. Jésus continue sa route et les disciples disent « Oui, il y avait comme un feu, cette rencontre, finalement, il y avait un feu au fond de nous. » Et vous connaissez l'histoire, ils ne vont pas se reposer. Ils vont faire demi-tour et ils vont repartir, l'air joyeux, avec un message merveilleux d'espérance à communiquer. Longue rencontre, longtemps que prend Jésus dans cette rencontre. Ce que je voudrais partager avec vous, outre le fait que avec Philippe, tout à l'heure, on partagera la Sainte Cène. C'est de vous reposer cette question de la rencontre, de vous replonger dans la rencontre. Dans la Bible, en la personne de Jésus-Christ, son Fils, Dieu le Père est venu rencontrer les hommes que nous sommes. Dans ce temps d'avant, Noël, c'est la manifestation de Dieu parmi les hommes. C'est Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est l'apparition de Dieu trois fois saint, éternel. C'est la rencontre de Dieu avec les hommes sur la terre. Qu'en est-il de vos rencontres quotidiennes avec le Seigneur? La rencontre, la désirez-vous tous les matins? Désirez-vous cette rencontre? Parce que finalement, est-ce qu'on ne doit pas désirer ce qu'on a? Comment accueillez-vous Noël, la rencontre de Dieu avec l'homme? Que signifie-t-elle pour vous, personnellement? Prenez-vous du temps pour aller dans l'attente de la rencontre? Écoutez ce que Dieu a à nous dire, à nous ajuster notre objectif. Et sommes-nous disposés tous les matins dans cette rencontre à nous laisser interpeller? Quelle place et quel rôle tiennent nos rencontres avec le Seigneur dans nos agendas? Alors, s'il vous plaît, entreprenez votre vie. Ne passez pas à côté d'elle. Allez chercher cette rencontre. Et je vous souhaite à tous, dans ce moment-là, de joyeuses fêtes de Noël. À vous, tous et toutes, dans la joie de la rencontre avec le Seigneur. Amen.